Excellent réveil à tous. Voici le journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Les modalités économiques du couvre-feu. Hier, le Premier ministre et le ministre de l'Économie ont précisé quelles seraient les mesures de soutien aux entreprises qui seront particulièrement touchées par ce confinement nocturne. Accès élargi au fonds de solidarité, report de charges. Nous ferons le point avec Marie Viennot.
Ces mesures et plus largement la stratégie gouvernementale n'ont pas été débattues. C'est le reproche fait par certains parlementaires au gouvernement, nous l'entendrons, tandis que la piste d'un report des élections régionales pour cause de Covid se précise.
Nous irons en Thaïlande également dans ce journal pour entendre la colère des manifestants qui ont repris la rue à l'appel d'organisations étudiantes.
Et puis en Nouvelle-Zélande, les élections générales se présentent sous les meilleurs auspices pour la première ministre.
Après ce journal, le billet politique de Frédéric Saïs, il portera sur la nouvelle maire de Marseille, Michèle Rubirola. Comment poursuivre son activité en temps de couvre-feu? La question s'était déjà posée au moment du confinement. Elle se repose d'autant plus douloureusement aujourd'hui que beaucoup de PME et de commerces sont déjà très affaiblis. C'est pour éviter des faillites en pagaille et tenter de ne pas obérer une future reprise économique que le gouvernement a donc précisé hier les mesures de soutien aux entreprises qui accompagneront ces 4 semaines au minimum de couvre-feu. Bercy reste fidèle au quoi qu'il en coûte de ces derniers mois. Le budget prévu pour soutenir les entreprises touchées est chiffré à 1 milliard d'euros, les précisions de Marie Viennot.
Pour ces nouvelles annonces, le gouvernement a modifié d'abord les conditions d'accès aux aides. Pour les entreprises de l'hôtellerie, café, restauration et celles de la culture, de l'événementiel et du sport, c'est à partir de 50% de perte de chiffre d'affaires et non plus 70% qu'il sera possible d'avoir accès au fonds de solidarité. L'aide reste au maximum de 10 000 euros mensuels, mais elle sera déplafonnée. Avant, elle ne pouvait pas dépasser 60% du chiffre d'affaires, ce qui avantagera les petites structures. Les entreprises des autres secteurs situés aussi en zone de couvre-feu pourront espérer de leur côté 1500 euros par mois de couvre-feu à partir de 50% de perte de chiffre d'affaires. Les entreprises qui venaient de se créer et n'avaient pas de chiffre d'affaires l'an dernier ou celles qui sont à moins 40% n'auront donc pas accès à ce fonds, mais elles peuvent accéder à des prêts garantis par l'État. C'était le cas avant, mais Bercy a décidé de prolonger cette possibilité pour toutes les entreprises jusqu'au 30 juin prochain, alors que cela devait s'arrêter fin décembre. Qui dit prêt dit cependant échéance de prêt. Or, rembourser quand l'activité est nulle, c'est compliqué. Le ministre des Finances a donc demandé à la Fédération bancaire française d'examiner un report du remboursement de ces prêts pour une année supplémentaire au cas par cas. L'objectif, avec toutes ces mesures, c'est de gagner du temps et de maintenir les entreprises sous perfusion pour éviter leur liquidation. Mais la perfusion ne sera pas suffisante pour toutes. Avant ce couvre-feu, les tribunaux de commerce s'attendaient à un pic des défaillances d'entreprises au printemps. Possible que cette échéance se rapproche.
Marie Viennot. Par ailleurs, les soignants qui manifestaient hier pour dénoncer leurs conditions de travail seront gratifiés d'une prime pour ceux en tout cas qui renonceront à leurs vacances de la Toussaint et ils sont fortement encouragés à le faire. En région parisienne, près de la moitié des lits de réanimation sont occupés par des malades du Covid. Autre public destinataire du soutien financier de l'État, les allocataires du RSA. Ils auront droit à une prime de 150 euros mais seuls les allocataires des APL ayant des enfants auront droit eux à une prime de 100 euros par enfant, pas ceux qui n'ont pas d'enfants, soit une majorité des jeunes de 18 à 25 ans. C'est pourtant ce qu'avait laissé entendre Emmanuel Macron jeudi soir, un rétro-pédalage dénoncé par l'UNEF qui critique un délaissement des jeunes dans cette crise. Autre modalité du couvre-feu, les commerces évidemment seront fermés entre 21h et 6h du matin dans les 9 métropoles concernées, sauf les restaurants qui font de la livraison à domicile. Et puis Jean Castex l'a précisé hier également, toutes les fêtes privés comme les mariages ou les soirées étudiantes qui se tiennent dans des salles des fêtes, des salles polyvalentes ou tout autre établissement recevant du public seront interdites et ce sur tout le territoire. Des restrictions qui passent très mal pour les professionnels concernés. Les traiteurs notamment qui s'apprêtent à entamer leur dernier week-end d'activité avant plusieurs semaines. Joël Mauvignier est président de la Confédération nationale des charcutiers traiteurs. Il est extrêmement défiant face aux mesures annoncées et il craint le pire pour son secteur.
Ces effets d'annonce en disant que l'État va se substituer à l'économie de chaque entreprise, on ne peut pas l'entendre. On ne peut pas l'entendre parce qu'il y a très peu d'entreprises qui en bénéficient. Parce que déjà, ils ne montent pas des dossiers, ils ne connaissent pas, ils ne sont pas aidés. Leur expert comptable attend des décrets. Or là, c'est une annonce, mais il n'y a pas de décret, il n'y a rien du tout. Tout ça, c'est de l'annonce. Et on le vit depuis le début du confinement. Donc c'est encore un coup de massue qui nous arrive. On s'en fiche des aides. C'est pas ça qui va remonter notre chiffre d'affaires. C'est pas ça qui va maintenir nos emplois. On est déjà à l'agonie. On est, oui, un secteur complètement sinistré.
Des propos recueillis par Anne-Laure Jumet. Et puis, vous entendiez hier dans nos journaux les inquiétudes des syndicats du spectacle vivant et du cinéma. Avec le soutien de certains maires, ces fédérations demandent des dérogations et proposent que les billets de théâtre ou de cinéma servent d'attestation pour les déplacements pendant le couvre-feu. Des discussions sont engagées. L'exécutif se dit prêt à des aménagements. Hier, une réunion au ministère de la Culture a recueilli les doléances du secteur sans qu'une décision soit prise. Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, a rendez-vous dans la journée à Bercy. Ce couvre-feu et ces mesures de soutien à l'économie ont été décidées sans débat au sein de la représentation nationale. C'est ce que dénoncent beaucoup de députés à l'Assemblée comme au Sénat, qui réclament de pouvoir au moins en discuter ensemble. Écoutez sur ce sujet la présidente du groupe PS à l'Assemblée, Valérie Rabault. Elle est interrogée par Stéphane Robert.
Vous savez, en ce moment, on est en train de débattre sur le budget. Bon, mais le budget 2021, il est de facto caduc. Et moi, je demande au gouvernement qu'on ait plusieurs scénarios. Soit la crise dure, et dans ce cas, il faut que véritablement on ait une projection de ce que ça donne comme résultat. Soit, effectivement, on se dit bah, ça va être le quatrième trimestre, mais après, ça redémarrera. Il faut qu'on puisse avoir deux, trois scénarios sur lesquels la représentation nationale puisse s'engager, puisse donner son avis. Ça se fait dans toutes les grandes démocraties en Europe. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas chez nous. Donc en fait, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que nous demandons. Il y a juste le fait que ben voilà, la représentation nationale puisse jouer son rôle.
Vous avez, quoi qu'il arrive, votre mot à dire.
On a notre mot à dire sur l'état d'urgence. Mais l'état d'urgence, c'est une question de droit. C'est-à-dire quand vous enlevez des droits aux citoyens, notamment sur la liberté de circulation. Quand on veut avoir une vision globale de ce couvre-feu, ça inclut aussi des aspects économiques et sociaux. Et nous, ce que nous demandons, c'est un débat global qui inclut toutes les questions, et notamment les questions économiques et sociales.
Valérie Rabault, présidente des socialistes à l'Assemblée. Enfin, nous l'évoquions en début de semaine, l'hypothèse d'un report des élections départementales et régionales se précise. Le premier ministre a posé la question de manière officielle, sans donner de réponse. Pour l'instant, Jean Castex se propose de créer un groupe de travail avec l'ensemble des partis, présidé par une personnalité qualifiée, un groupe qui s'appuierait sur les avis du Conseil scientifique pour prendre la décision de reporter ou non le scrutin. Mais le processus n'est pas si simple. Antoine Maret.
Techniquement, modifier la date d'une élection, ça n'est pas très compliqué. Il faut pour cela voter une loi. C'est ce qui s'est passé pour le second tour des municipales qui a été reporté à juin dernier. Sur le plan du droit, pas de problème donc, mais politiquement, c'est une autre affaire. Car il faudra se décider rapidement, avant que la campagne ne commence et que les dépenses inhérentes ne soient engagées par les partis politiques. Il faudra le faire dans un esprit de consensus, en mettant en avant des causes sanitaires qui pourraient avoir des conséquences sur l'abstention, et éventuellement entraîner l'annulation du scrutin. Romain Rambeau est professeur de droit public, spécialiste de droit électoral à l'université Grenoble-Alpes.
L'abstention en elle-même ne peut pas seule entraîner l'annulation de l'élection. En revanche, il peut y avoir des annulations d'élections au cas par cas. S'il y a eu soit une atteinte à la liberté de vote, c'est-à-dire qu'il faut imaginer un cas où, par exemple, les procurations n'auraient pas été possibles ou les opérations de vote n'auraient pas été correctement organisées, ou une atteinte à l'égalité des candidats, c'est-à-dire que certains candidats auraient été particulièrement impactés par la situation sanitaire et plus que d'autres, et ils auraient ainsi été empêchés de faire campagne. Donc ce serait par exemple l'hypothèse d'un candidat qui a été confiné alors que son adversaire n'a pas été confiné.
Reste un constat, le droit français a bien du mal à s'adapter à la crise sanitaire. Contrairement à d'autres pays, aucun vote par correspondance, aucun vote anticipé n'ont été prévus, ni aucun mécanisme spécifique pour faire campagne en temps de Covid-19.
8h08 sur France Culture, la suite du journal d'Anne-Laure Chouin, l'actualité internationale. À présent avec, en Thaïlande, des manifestations qui reprennent à l'initiative de la jeunesse. Hier, à l'appel des étudiants, des milliers de manifestants ont occupé le centre-ville de Bangkok.
Et pour cela, il leur a fallu braver l'état d'urgence imposé dans la capitale. Ils exigent toujours le départ du gouvernement et une réforme de la monarchie. C'est un reportage à Bangkok de notre correspondante Carole Izou.
Ils étaient là pour défier le pouvoir en place. Hier soir, des milliers de manifestants étaient venus dire au gouvernement qu'ils n'avaient pas peur de l'état d'urgence imposé dans la capitale thaïlandaise, qui interdit désormais les rassemblements de plus de 5 personnes et la diffusion d'informations relatives aux manifestations. Ils étaient là malgré l'absence de leur leader, déjà presque tous arrêtés le matin par la police, inquiets mais fermes dans leurs revendications. Départ du gouvernement, nouvelle constitution et ce que personne n'avait osé avant. avant eux, réforme de l'institution monarchique. Ils sont jeunes, voire très jeunes, beaucoup de lycéens sortaient des cours et portaient encore leur uniforme, comme Tien, 16 ans.
Bien sûr que j'ai un peu peur. J'ai menti à mes parents en disant que j'allais réviser. Mais en fait, je suis venu ici pour faire entendre ma voix. Notre gouvernement n'écoute pas le peuple. Ça n'est plus acceptable d'être méprisé ainsi. Et par le roi non plus. Il mène la grande vie en Allemagne en utilisant les ressources de notre pays. Alors qu'ici, l'économie s'écroule. On ne peut vraiment plus accepter ça.
Le gouvernement n'a pas fait usage de la force. Les manifestants se sentent protégés par leur jeunesse et par leur nombre, par le fait également qu'ils ne sont officiellement soutenus par aucun parti politique. Mais cette contestation de la monarchie est illégale. Elle se heurte à l'ultra-royalisme d'une frange de la population. Les étudiants semblent pourtant ne pas désarmés. Ils appellent à nouveau à se rassembler ce soir à l'une des intersections les plus fréquentées de la capitale.
Il est un pays dont on peut dire qu'il a réussi à maîtriser l'épidémie de Covid-19, un pays qui s'apprête à voter pour des élections générales qui devraient reconduire à sa tête l'artisan principal de cette réussite, c'est la Nouvelle-Zélande et sa première ministre, Jacinda Ardern, pratiquement assurée de retrouver son poste. Samedi donc, les Néo-Zélandais vont renouveler les 120 députés de la Chambre des représentants, favoris de l'élection, les travaillistes, au pouvoir depuis 3 ans, et leur leader, Jacinda Ardern, donc devenue l'élue la plus populaire que le pays a connu depuis un siècle, Nathanaël Charbonnier.
Elle est impressionnante. Ce compliment est signé de son principal opposant, c'est dire si elle fait l'unanimité dans le pays. Jacinda Ardern, en l'espace de 3 ans, a su non seulement s'imposer mais aussi gérer des crises majeures, comme la tuerie de Christchurch commise par un suprémaciste blanc ou plus récemment la pandémie de coronavirus. Son talent, savoir être ferme tout en offrant une image bienveillante. Et c'est dans son salon, en survêtement sur Facebook, qu'elle prend la parole pour annoncer le confinement de l'île. Conséquence, malgré l'annonce de mesures drastiques, non seulement la Nouvelle-Zélande sera peu concernée par le virus, mais en plus, Jacinda Ardern gardera la confiance du pays. Elle a ce talent d'être compétente, sincère, proche des gens et sensible à l'injustice et la pauvreté. Jacindarella, Jacinda la Cendrillon, comme l'a surnommé le journal The Economist, devrait gouverner 3 ans de plus avec un nouveau défi, gérer cette fois la crise économique liée au Covid qui touche la Nouvelle-Zélande.
La Nouvelle-Zélande, 5 millions d'habitants qui a enregistré 25 décès seulement dus au coronavirus. Sa stratégie a été saluée par l'OMS. Le Liban, au bord de l'effondrement, a-t-il un avenir? C'est la question qui sera posée dans le grand reportage de la rédaction, aujourd'hui à 17h sur France Culture. 2 mois et demi après l'explosion qui a ravagé le port de Beyrouth, la reconstruction avance doucement, portée essentiellement par des associations. L'État, lui, brille toujours par son absence. La classe politique, pour autant rejetée par la population, est toujours en place et s'accroche au pouvoir. Dans un Liban où la moitié de la population a basculé dans la pauvreté, un sursaut est-il encore possible? Les Libanais sont-ils condamnés à l'exil ou au retour de la guerre civile? Écoutez ce témoignage recueilli par le correspondant de France Culture à Beyrouth, Aurélien Colli, qui signe ce grand reportage. Il s'agit de Karim, entrepreneur franco-libanais, qui a décidé de quitter le Liban avec sa femme et ses 2 filles.
Le 4 août, c'était le coup de pied au cul. Ce coup de tonnerre qui nous a dit « Allez-vous-en, votre place n'est pas ici ». On voit autour de nous, c'est une catastrophe, c'est un marasme économique, ça va de pire en pire. D'autant plus que les dirigeants actuels ne sont pas à même de prendre des décisions et de faire avancer. Au contraire, ça ne fait que piétiner. Et à mon avis, ça va encore dégringoler économiquement, socialement. Ça va pousser les gens encore plus dans la rue. Et certainement, il y aura des affrontements ou des attentats. Les gens seront éliminés. Enfin, c'est pas ce que je souhaite, mais l'expérience nous permet aussi de prédire un peu l'avenir. Je pense que tout le monde a envie de partir à l'heure qu'il est, mais peu de gens peuvent le faire. On est pris en otage par les banques, on ne peut pas retirer notre argent, les cartes de crédit ne marchent pas à l'étranger, donc c'est une mission impossible de partir. On fait partie de certains privilégiés. On a vécu la même chose il y a 40 ans, on a fui la guerre parce que nos parents voulaient nous offrir une vie normale, et nous, on fait de même. C'est pour mes enfants que nous partons, c'est pas pour nous.
Au bord de l'effondrement, le Liban a-t-il un avenir? Un reportage d'Aurélien Colli, donc réalisé par Annie Brault et présenté par Catherine Pétillon. Ce sera ce soir à 17h et sur franceculture.fr. On termine avec un mot de météo. Il fera froid aujourd'hui et le ciel sera gris. De petites bruines éparses du Grand Est à l'Auvergne-Rhône-Alpes. Sur les régions méditerranéennes, du vent et un soleil prédominant sur le nord et l'ouest du pays. Quelques éclaircies ce matin. Les températures, n'espérez pas plus de 1 à 6 degrés sur la moitié ouest du pays, 5 à 10 degrés à l'est ce matin. Les maximales iront de 10 à 16 degrés en général, entre 15 et 19 sur la Méditerranée.